comprenez ce retour du son des années 80 dans la jeune génération qui, pour la plupart d'ailleurs, n'avait même pas connu à l'époque les sons qui sont produits, qui sont reproduits aujourd'hui, et dont vous êtes un des chefs de file?
Il y a toujours des vagues comme ça. Quand dans les années 80, on redécouvrait les années 60, par exemple. Il y a toujours un délai comme ça, qui est une forme de nostalgie. Et voilà. Et de toute façon, on recycle à chaque fois les choses.
Vous-même, quand vous avez commencé, vous aviez l'impression de recycler quelque chose?
Oui, bien sûr.
Qui était?
Plein de choses que j'avais aimées. Toute la musique de Lou Reed, de Velvet Underground, ça, mais aussi des choses françaises. Brigitte Fontaine, Dutron, Hardy, Gainsbourg, tout ça. On écrivait beaucoup ces choses-là. Et, mais aussi beaucoup de musique rock et anglo-saxonne. Tout ça fait un mélange qui traverse sa sensibilité, qui donne voilà, des chansons.
19-20.
Plateau Innocence avec vous, Étienne Daho, donc auteur, compositeur, interprète, plus de 30 ans de carrière, le son de la pop française avec des albums devenus cultes, La Notée en 84, Pop Satori en 86, que vous allez reprendre l'ordre d'une carte blanche à la Cité de la Musique à Paris le 1er juillet prochain, bien sûr Eden, disque magnifique en 96, L'Invitation en 2007, et l'automne dernier, eh bien c'était votre 13e album, Les Chansons de l'Innocence Retrouvées, un titre en écho au chant de l'innocence du poète anglais William Blake, début 19e siècle. Comment cette référence s'est imposée?
C'est un livre que je lisais quand j'étais adolescent. C'était comme des chansons, en fait. Il y avait une rythmique comme ça. C'était vraiment comme de la musique. Et quand j'ai commencé à enregistrer cet album, le dernier, j'étais à Londres et j'ai loué une garçonnière. Et la première chose que j'ai...
Une garçonnière?
Oui. C'est vraiment ça.
Ça fait rêver. Très 19e.
C'est un peu ça, oui. Et quand je suis rentré, la première chose que j'ai vue, c'est un exemplaire de ce livre. Avec exactement la même couverture, c'est la même édition. Et je trouvais que c'était un signe. Et souvent il faut faire très attention aux signes. Ils sont beaucoup plus importants qu'il n'y paraît au premier abord.
C'est quelque chose qui vous est arrivé aussi dans votre parcours d'écrivain, Christine Angot, comme ça, des romans que vous aviez lus beaucoup plus jeunes, qui vous sont revenus au moment de l'écriture d'un autre?
De toute façon, j'ai l'impression que quand je lis des livres, je crois que je cherche toujours dans un livre que je suis en train de lire ce que quelque chose qui me concerne. Enfin, le livre, est-ce qu'il m'aide à faire un livre? Est-ce que le livre que je suis en train de lire m'aide à faire celui que moi j'ai à faire? Voilà. Sinon, je crois que je le lis pas. Sinon, ça m'intéresse pas.
On y reviendra tout à l'heure avec les caractères de la Bruyère. Claire Maillot.
Pour qualifier ce que vous avez fait musicalement, vous parlez de disque de groove symphonique. Ce sont vos mots. Il n'est plus question de pop chez vous, Étienne Daho?
Non, mais il fallait que je trouve une nouvelle formule.
Pour des questions de journaliste.
C'est absolument idiot ce que j'ai répondu. Non, mais c'est vrai que c'est un mélange. Je voulais un disque qui est une espèce de groove permanent. C'est-à-dire que ça avance tout le temps, quoi qu'on dise, quoi qu'on raconte, même si c'est une chanson très sombre. Qu'on ait quand même malgré tout envie de bouger, de danser. Et symphonique parce qu'il y a un orchestre, c'est un disque très arrangé avec des arrangements d'orchestre très importants. Il y avait un orchestre de 45 musiciens qu'on enregistrait à Bayreuth et ça donnait ce mélange. C'est pas la première fois que j'essaie de faire ça, mais de mélanger les deux. Mais j'ai l'impression qu'avec plus de maturité, plus de temps, je suis arrivé à faire un son qui me plaît, quoi.
Alors, je ne vais pas vous faire le coup de l'album de la maturité, ça c'est absolument impossible. Vous avez enregistré cet album à Londres, vous venez de le dire, avec de nouvelles collaborations et très nombreuses. Le guitariste de Chic, Niles Rogers, on y reviendra. Les Jerry Punk, ex-Blondie, Debbie Harry, Dominica, et puis des artistes plus jeunes, hein, comme le musicien Ian Wagner ou François-Marie de François and the Atlas Mountains, qui vous rejoint sur votre morceau préféré, c'est ce qu'on a pu lire, L'homme qui marche, extrait réarrangé.
J'étais là très tôt ce matin, je te cherchais à vive allure, le passé nous rattrape. Je me demande si j'ai eu raison, mais me voici à Rome, devant chez toi. L'escalier monte à sa chambre et dans ce froid. Légère dans son âme tout noire.
c'est la première chanson Étienne Dao que vous avez écrite, une chanson cinématographique. Ce sont vos mots qui devaient donner d'ailleurs le ton de l'album, c'est ce qui est fait. Et ce qui est frappant sur ce morceau notamment, mais bien sûr sur de nombreux autres, c'est la manière dont vous projetez aujourd'hui votre voix. Et je crois que c'est votre collaboration avec Jeanne Moreau, la mise en musique du Condamné à mort de Jean Genet, qui a modifié ce rapport à votre voix. Qu'est-ce que vous avez compris avec ce projet-là, qui doit quand même quelque chose à ce disque aujourd'hui?
Je crois que c'est plus profond que ça. C'est une modification qui passe par un projet qui sort de la pop, comme on dit. C'est un projet qui m'a fait rentrer dans un autre monde, partagé avec quelqu'un d'exceptionnel comme Jeanne, qui est la plus jeune d'entre nous, parce qu'elle a vraiment, elle est comme une adolescente avec ses choix. Elle a une intransigeance qui me plaît beaucoup et qui me recale aussi.
Elle vous a appris quelque chose sur la voix, au vu de la voix qu'elle a encore aujourd'hui?
Oui, surtout sur la voix parlée. Ah. Parce que sur la voix chantée, la voix chantée, c'est autre chose. Le chant, c'est assez naturel pour moi. Je chante comme je parle, en fait. Mais pour ce qui était de dire le texte de Genet, j'avais une appréhension, en fait, parce que c'était un peu comme du théâtre. Et elle m'a dit « la voix froide, le cœur chaud ». Et j'ai compris quelque chose.
Est-ce que vous avez pris des cours de chant?
Bien sûr. Quand on fait ce métier comme ça, c'est comme on est des petits athlètes. Et voilà, c'est comme quand on doit faire une course de haies, il faut s'entraîner. Et donc voilà, oui.
Des cours de chant avec une chanteuse lyrique, un chanteur lyrique, ou des cours de chant
Non, c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis assez longtemps. Mes chansons, même si je sais que beaucoup de gens trouvent que je suis un chanteur qui ne force pas, on va dire, pour être gentil.
Pas Céline Dion, ça c'est sûr. Ouais.
Pour être gentil avec moi-même.
Ni Yvan Rebroff, on a bien compris.
Mais bon, c'est un style, c'est comme ça que j'envisage et que je ressens le chant. Pour ce que j'ai à exprimer, ça me convient. Mais ce sont des chansons qui sont difficiles à chanter, qui ont l'air de rien, mais qui sont difficiles pour les gens qui essaient de les reprendre. Parce que ce sont des mélodies qui sont souvent en mineur et qui demandent un peu de technique pour la justesse, pour le souffle. Souvent, ce sont des phrases assez longues. Et on a l'impression que je suis au fond de mon lit en train de fumer des clopes, mais pas du tout.
Christine Angot, je crois que vous avez eu le temps d'écouter un petit peu l'album. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous a plu particulièrement marquée, ou même dans le parcours d'Étienne Dao?
J'écoute comme chacun de nous depuis très longtemps, bien sûr. Et il y a un album en particulier qui est Eden aussi.
Oh, merci, c'est celui que je préfère.
Bah, moi aussi. Voilà, c'est la chanson Eden en particulier, quand tu m'appelles Eden, tout ça. J'adore cette chanson. C'est une chanson que je mets depuis longtemps. Je suis toujours contente d'entendre et qui à la fois me plaît comme chanson et à la fois parce que je l'ai trouvée belle depuis le début. Et puis ce mot Eden, il faut s'en approcher. Quand on fait, j'imagine, une chanson qui s'appelle Eden, on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas la chanter n'importe comment, on ne peut pas mettre n'importe quelle musique. Sinon, ce n'est pas possible. Il y a des mots qu'on ne peut pas manipuler comme ça. Et ce que j'aime aussi, c'est que, notamment dans le dernier album, on n'a pas l'impression que ce sont des chansons. C'est-à-dire que Étienne Dao, pour moi, c'est... Je crois que si on l'aime bien, c'est parce que bien sûr, il chante, mais on entend surtout qu'il dit quelque chose quand il chante. Il parle, quoi.
Étienne Dao?
Alors écoutez, je ne regrette pas d'être venu.
Pas nous non plus, ça tombe bien. Parce que,
vraiment, c'est... Moi, j'aime beaucoup Christine Angot. Donc voilà. Donc, non, mais c'est tellement, c'est tellement agréable d'être apprécié par des gens qui comptent pour vous. Donc voilà, ça me touche beaucoup. Merci, vraiment.
Claire Maillot.
Au départ, vous aviez, je crois, une autre idée pour le titre de l'album, c'est Disco Noir. C'est d'ailleurs le titre de la tournée et le son d'une version remixée des chansons de l'Innocence avec Yann Wagner et Au revoir Cinnamon, dont on va écouter un extrait.
Black Madone, somnambule, tu roules des mécaniques, et dans le disco noir, électrique, tu tends ton arc. Thank you.
On vous connaissait amateur de soul, mais pas de disco. Or, vous vous intéressez, je crois, à ce que vous identifiez comme un moment de bascule de cette période disco, entre les années 73 et 75. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le disco?
Pour vous, Étienne Dao?
À l'époque, j'aimais pas le disco, hein, parce que j'étais... J'étais plutôt attiré par les groupes punk et tout ça, et le disco, c'était un peu, c'était pas bien. c'était pas assez radical. Mais il y avait les disques de Nile Rodgers. Il a tellement inventé un son.
Avec Chic,
avec
notamment.
Chic,
avec que, Sheila aussi.
Oui, mais c'est vraiment bien ce disque de Sheila.
Mais oui, non, mais c'est une phrase qui vaut pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle dit. Juste une question par rapport à l'écriture. Je me demandais, est-ce qu'il y a des temps, est-ce qu'il y a des moments que vous vous réservez pour l'écriture? Parce que quelque chose a changé dans cette écriture. Elle est moins autobiographique dans ce disque qu'elle a pu l'être auparavant. Je pense à l'invitation. Mais elle est tout aussi intime. Est-ce qu'il y a des temps que vous vous réservez quand vous écrivez, Étienne Dao?
Ah oui, c'est-à-dire que c'est un exercice un petit peu particulier. D'ailleurs je suis très admiratif... D'auteurs comme Christine Angot qui sur des pages et des pages développe un monde. J'envie ce temps et cet espace. La chanson, c'est un petit espace et c'est comme un exercice de maths, en fait. Il faut faire rentrer des mots et que ces mots se mélangent avec une suite d'accords. Et ce petit exercice, ça demande beaucoup de temps pour essayer de faire coïncider les choses. Et c'était assez minutieux. Souvent, j'arrive en studio en disant oui, j'ai fait les textes et je colle des bouts de feuilles partout et tout d'un coup, ça devient un mélange que moi-même je. Mais là, je me levais tous les jours à 6 heures du matin et avant d'ouvrir quoi que ce soit, mon ordinateur, de regarder mes messages et tout ça, je commençais à travailler de 6 heures du matin jusqu'à 11 heures. Et après, j'allais marcher avec la chanson dans les oreilles et j'écrivais des pages et des pages et des pages. Et après, c'était la complexité, c'était de ramasser tout ça pour que ça rentre dans une chanson et de garder juste la sensation qu'on a avec la musique.
Et vous, le temps de l'écriture, Christine Angot, c'est 6 heures du matin ou c'est beaucoup plus tôt?
Mais déjà, on a les mêmes horaires. Enfin, moi, je commence un peu plus tôt.
C'est pour ça qu'elle va pas au concert à 18h. Enfin, s'il y en avait à 18h, elle irait, mais à 22h, c'est plus possible.
Mais c'est quand même très intéressant, cette... En tout cas, il y a quand même un point commun, c'est que j'entends bien que ça fait deux fois quand même que vous utilisez... le mot sensibilité, sensation, etc. Et que c'est ça qu'il faut, je ne veux pas dire capturer parce que c'est trop violent, mais laisser émaner ou se dissoudre, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, quelque chose comme ça. Mais enfin, c'est intéressant de comparer l'espace long, et c'est vrai que c'est ça qui est bien, en fait, dans l'écriture. C'est que, et pendant ce temps-là, le reste ne compte pas.
Dernière question, Claire.
Oui, un mot peut-être sur la pochette de l'album. Alors, pas pour revenir sur les polémiques qui ont entouré la sortie de l'album. C'est une photo signée Richard Dumas. On le voit donc aux côtés de cette jeune femme dénudée. Mais c'est surtout une photo qui fait rupture parce que dans quasiment tous vos albums, sur vos pochettes, c'était des portraits de vous cadrés serrés, de face ou de profil. Qu'est-ce que cette signature visuelle venait souligner de votre musique?
Alors, c'est une photo qui est complètement accidentelle. Parce que j'ai rencontré cette jeune femme. Elle était nue quand je l'ai rencontrée. Hein.
Ah, c'est son habitude. Elle est connue pour ça. Hein. Elle se balade nue comme ça. Voilà, vous l'avez rencontrée. Oui.
Et donc le photographe Richard Dumas, qui est un ami de la fac hein, carrément, que je connais depuis très longtemps, elle passait à côté de nous. C'était dans un hôtel. Et il lui a demandé de faire une photo avec moi. Mmh. Et donc ça a duré 3 secondes. Et puis quand les photos sont arrivées, je me suis dit mais c'est ça, la photo de l'album, c'est vraiment cette photo-là.
Et c'est une photo qui fait rupture avec le reste, parce que, comme le disait Claire, les pochettes avant, c'est des portraits cadrés sur vous.
Oui, c'était au bout d'un moment, c'est une routine un peu ennuyeuse aussi, mais c'est toujours tellement compliqué de faire la vitrine d'un album. Souvent, c'est un portrait, c'est vrai. Donc, par rapport à cette routine, il faut essayer d'ouvrir, de changer les choses, de sortir du cadre. Bon, cette photo, elle est sortie du cadre, du coup, bon, parce qu'elle a été censurée. Enfin, c'est absurde, d'ailleurs. Il y a Oli qui m'a donné d'ailleurs son disque, et elle aussi.
Elle se balade nue. Vous voyez, dès qu'une femme se présente à vous, elle se balade nue. Comme Christine Angot, j'ai ça pour les auditeurs, mais c'est faux. Christine, juste une question par rapport aux photos, puisqu'il y a eu, vous aussi, vous avez travaillé avec des photographes, ce qui est assez rare d'ailleurs pour un écrivain, pour des couvertures de livres. Il y avait eu Les Désaxés, c'était avec Jean-Baptiste Mondino, et il y avait eu, je crois, Le Marché des Amants, avec Nan Goldin. C'est vous qui aviez eu l'idée de Nan Goldin?
Je me souviens plus. Enfin, en tout cas, je me souviens plus.
Et vous vous souvenez quand même de la séance ?
Enfin, bah oui.
Quand même.
Ah, ça, je peux pas oublier.
Pourquoi ?
Parce que c'était extraordinaire. C'était mais extraordinaire. C'était magnifique. Vraiment. Je sais pas. Oui, c'est difficile. C'était. J'étais dans son histoire, quoi. Soi-disant, moi, j'avais écrit un livre, mais en fait, je devenais son personnage. Et c'était elle qui faisait son histoire, quoi, comme ça. Et c'était comme un repos pour moi d'être juste quelqu'un comme ça, dans son image à elle. Bon, c'était magnifique, vraiment.
Je sais que la photo, c'est quelque chose qui vous intéresse, Étienne Daho. Je me demandais, quel est l'appareil avec lequel vous travaillez ?
Alors, ça dépend.
Argentique, numérique ?
Ah non, du numérique maintenant. Quand j'étais adolescent, c'était de l'argentique. J'avais les doigts complètement bouffés par les produits de...
Ah, parce que vous développiez vous-même.
Ah oui, je faisais mes développements. Enfin, ça fait partie vraiment d'aller jusqu'au bout de la vision qu'on a des choses. De le faire plus ou moins contrasté, plus ou moins noir. J'adorais ça. Je pensais que j'en ferais mon métier. Et puis, en fait, la musique, c'est tellement une passion. Mais j'ai vraiment envie de revenir à la photo parce que j'aime bien regarder les autres, en fait. Les autres m'intéressent beaucoup, surtout les visages. Je trouve qu'il se passe tellement de choses. Là, j'ai fait des photos, justement, parce qu'il y a ces soirées à la Cité de la Musique où j'ai invité toute la majorité de la nouvelle scène française et je les ai photographiées.
Et c'était vraiment Wagner,
beau.
Ouais.
C'est super beau parce qu'il y a tellement d'espoir, tellement de radicalité, d'envie. Et puis, en même temps, à chaque fois qu'ils arrivent devant l'objectif, quand on se regarde dans la glace, on a toujours des angles où on se trouve bien.
Oui,
donc, c'est ça qu'on offre à la caméra. Et il y a toujours un moment où on lâche. Et c'est ce moment-là qu'il faut choper et qui est très beau. Quoi. Et j'ai fait vraiment des beaux portraits de tous ces petites jeunes filles et
Vous
ces jeunes gens.
De vous. C'est parfait.
Je trouve que ça parle bien d'eux. Quoi. Je trouve que... C'est ça qui est important, ce que ça dégage, ce qu'ils ont offert, quoi.